réplique sur la Révolution française avec Patrice Guinifet et Jean-Claude Milner. Jean-Claude Milner nous invite, dans son dernier livre, à relire la Révolution. Cette invitation, je voudrais y répondre aujourd'hui, en compagnie de Jean-Claude Milner lui-même et de Patrice Guinifet, qui, avant de se lancer dans une monumentale biographie de Napoléon Bonaparte, a écrit plusieurs livres sur la Révolution française, notamment « La politique et la terreur ». De la Révolution française, justement, vous dites, Jean-Claude Milner, quel est le seul événement dans l'histoire à mériter le nom de Révolution? Qu'est-ce qui vous autorise à poser un tel diagnostic alors même que le XXe siècle fut par excellence le siècle de la passion et de l'action révolutionnaire, Jean-Claude Milner?
Un des points que je voudrais établir dans mon livre, c'est la différence entre la Révolution telle que la Révolution française a été amenée d'abord à la penser, puis après à l'inscrire comme un événement dont la mémoire pouvait être conservée, et quelque chose que j'appelle la croyance révolutionnaire, qui considère que il existe des événements qui méritent le nom de révolution si et seulement si ils présentent un certain nombre de caractères. Et parmi ces caractères, il y a évidemment la référence comme souvenir, comme point en quelque sorte d'horizon, point de perspective, la Révolution française elle-même, alors que la Révolution française elle-même ne se prend pas elle-même comme point de perspective, elle en prend d'autres. Et un certain nombre de traits différentiels qui m'amènent à construire une sorte de morphologie de la Révolution telle qu'elle a été pensée au XIXe siècle et au XXe siècle, comme les ethnologues ont construit une morphologie du conte merveilleux avec un certain nombre d'épisodes. Et quand on regarde dans le détail, la Révolution française ne présente pas nécessairement les caractères que la croyance révolutionnaire, qui pourtant se réclame d'elle, va considérer comme essentielle. Et ceci, c'est négativement. Et positivement, je dirais que la Révolution française pose, d'une manière qui ne sera jamais aussi claire après elle, la question de la différence entre le mouvement de masse et le mouvement de foule, d'une part, et d'autre part, la différence entre période révolutionnaire et période de guerre. Pour dire les choses autrement, pour des raisons qu'on comprend facilement, elle ne s'inscrit pas dans ce qui est devenu, en quelque sorte, le dialecte obligé des discours révolutionnaires du XIXe et du XXe siècle, progressivement au XIXe siècle, et de manière pratiquement constante au XXe siècle, c'est-à-dire la superposition du modèle politique de la Révolution au modèle quasi-militaire de la lutte des classes. Voilà les raisons pour lesquelles on considère que la Révolution française présente une forme moderne de la Révolution dans sa pureté, alors que les événements postérieurs qui prendront le nom de Révolution l'encombre de détermination d'un autre ordre.
Oui, mais quand même, Jean-Claude Milner, la Révolution, c'est une rupture dans l'ordre ordinaire des jours et une promesse de bonheur collectif dans et par l'histoire. Avec la Révolution soviétique, cette promesse a tourné au cauchemar, reste qu'elle a été formulée, qu'elle a mobilisé des masses et peut-être aussi des foules, et que il y a là malgré tout une relation, une convergence entre le modèle français et les épisodes révolutionnaires du XXe siècle, car la Révolution française fut cette rupture dans l'ordre des jours et cette promesse de bonheur collectif dans et par l'histoire.
Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Le point, c'est que dans la révolution soviétique, la référence à la révolution, et bien entendu, si on lit plus spécialement Trotsky, qui est le plus clair sur ce point, la référence à la révolution passe constamment par une sorte de, on peut même pas appeler cela un détour, par une référence à la Révolution française, passe son temps à comparer l'Empire russe finissant, l'autocratie finissante avec la monarchie absolue finissante. Compare les mencheviks aux Girondins. Donc le modèle d'intelligibilité que Trotsky construit de la Révolution soviétique est entièrement emprunté à la Révolution française. Mais, et je reprends là Trotsky lui-même, mais ce serait vrai également pour Lénine, c'est toujours mis au service d'une doctrine qui est la doctrine de la lutte des classes, qui fait qu'en vérité, la forme de la guerre de classe, qui va se projeter presque nécessairement en guerre entre États, va en quelque sorte parasiter le modèle de la Révolution, repris de la Révolution française. Donc, vous avez raison de signaler les deux traits, c'est-à-dire la rupture dans l'ordre des jours et la promesse d'un avenir, mais il faut y ajouter ce troisième trait qui est dû à la référence au marxisme, qui devient de plus en plus prévalente au cours du XIXe siècle et qui, disons, pour la révolution soviétique et pour la révolution chinoise et pour la révolution cubaine, va être déterminante.
Patrice Guénifet.
Oui, je crois que si on veut caractériser la révolution française ou lui cerner la place qui lui revient, tout ce qu'on peut faire, c'est de distinguer entre les différents types de révolutions, et d'ailleurs vous le faites. Les révolutions qui sont à retour ou qui se présentent comme telles, par exemple l'anglaise, l'américaine au début, qui est au fond de rétablir les libertés anglaises et d'en faire bénéficier les colons américains, et puis la française qui est effectivement, et c'est quand même son incroyable nouveauté, sa radicale nouveauté, une rupture, une volonté de rupture avec le passé et de recommencement de l'histoire. Et dans cette mesure, la Révolution française inaugure une expérience révolutionnaire qui aura des prolongements au XXe siècle, ce précisément que vous souhaitez exclure de toute parenté et placer à part. Il me semble que ce qui limite la comparaison entre la française et la russe, puis éventuellement la chinoise, c'est que les Français n'ont pas réellement de philosophie de l'histoire. Parce que la philosophie de l'histoire naîtra au XIXe de l'expérience révolutionnaire française. Et on en voit seulement les balbutiements dans les théorisations dont fait l'objet l'expérience révolutionnaire, dans le mouvement même des événements. Et je pense à Robespierre, à certains de ses grands discours du début 94. Et puis d'autre part, quand même, la grande différence, c'est que les Français n'ont pas de parti. Les Jacobins n'ont jamais été réellement un parti. C'est une ébauche de parti. Et au fond, l'absence d'une philosophie de l'histoire comparable au marxisme et l'absence du parti comme instrument de la révolution limite forcément la comparaison. Mais tous les éléments sont là et il me semble que le propre de l'histoire de la première partie de la Révolution française jusqu'à la chute de Robespierre, c'est de voir s'élaborer tous ces éléments qui feront désormais partie intégrante, en tout cas plus tard, après Marx, de la doctrine révolutionnaire moderne. Dans ce sens, il y a une filiation non pas de cause à effet, mais il y a une filiation d'inspiration, d'influence, revendiquée d'ailleurs, parce que c'est pas seulement Trotsky, tous les bolcheviks, à commencer par Lénine, pensent la révolution à partir de l'expérience révolutionnaire. Et enfin, je termine, le dernier point, c'est que les Français n'ont pas prémédité la révolution. Ils l'ont apprise en la faisant, alors que les bolcheviks ont prémédité la révolution, c'est-à-dire qu'ils l'ont pensée avant de la faire. Et ça, c'est aussi une différence considérable. Mais ceci dit, elles appartiennent à la même famille. Et il me semble que l'épisode sur lequel vous insistez à juste titre, la terreur, est précisément le lieu où l'on voit cette filiation s'établir.
Justement, sur cette filiation, Jean-Claude Milner, vous dites que ce qui différencie la révolution russe de la révolution française, c'est la guerre. Or, je parle sous votre contrôle à tous deux, il me semble bien que Robespierre a défini la politique comme la guerre de l'humanité contre ses ennemis. Et le tout politique de la Révolution française, c'était déjà une sorte de conflit de volonté. L'action ne rencontre pas d'obstacles ou de limites, mais seulement des adversaires ou des traîtres. Le mal, autrefois imputé au diable ou à Dieu, voici tout d'un coup qu'il est imputé à l'ennemi. Donc, est-ce que cette matrice guerrière de la Révolution n'est pas déjà présente dans la Révolution française, même si, bien sûr, cela n'en épuise pas le sens ou le message, Jean-Claude Milner?
Non, je ne le pense pas. Je pense que vous avez tout à fait raison de rappeler le nom de Robespierre, qui est à mes yeux le pivot, puisqu'il est à la fois celui qui met en garde le ministère, les ministres girondins et la couronne contre une entrée en guerre, et c'est celui qui, dans les faits, va être amené à être, avec d'autres, mais en tout cas au sein du comité de salut public, un des dirigeants de la guerre dans une période spécialement difficile. Et plusieurs de ses articles, Patrice Gagnifet signale à juste titre que dès que la situation militaire devient moins difficile, la légitimité de Robespierre à exercer le pouvoir se craquelle, se fissure. Mais justement, je pense que le parcours de Robespierre montre très bien que la guerre est quelque chose qui arrive comme un événement non voulu et non intrinsèquement, n'appartenant pas intrinsèquement à l'entreprise révolutionnaire. À partir du moment où elle a lieu, elle devient effectivement une guerre juste. Je reprends le terme de guerre juste, qui n'est pas employé spécialement par Robespierre, mais c'est une guerre juste parce que c'est une guerre de l'humanité contre ses ennemis.
Mais il ne s'agit pas simplement de la guerre livrée aux forces coalisées contre la Révolution française, mais de la politique pensée comme guerre à l'intérieur même de la société française entre les porteurs de la Révolution et tous ceux qui veulent remettre sur pied l'ancien monde. Et c'est ainsi que on peut concevoir la terreur sur un modèle belliqueux, et la pensée du complot, si essentielle à la Révolution française, ne peut se concevoir justement que sur cet arrière-fond de la politique pensée comme guerre.
Absolument, mais vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Mais si vous reprenez le discours du 8 Thermidor, qui va être celui par lequel Robespierre va essayer de rétablir son emprise sur la Convention et ne va pas y parvenir, il explique de manière extrêmement nette que, idéalement et en fait en toute logique politique, la Révolution n'aurait pour tâche que d'instaurer une constitution, et que dès que cette constitution serait instaurée, la Révolution aurait pour tâche de s'arrêter. En quelque sorte, la Révolution prépare, n'a pour autre fin que de préparer son propre achèvement. Mais, ajoute-t-il, et il s'adresse aux membres de la Convention, vous n'êtes pas dans cette situation, vous n'êtes pas dans cette situation parce que, là je résume, parce que vous et nous sommes dans une situation de guerre. La situation de guerre est une situation qui est extérieure, qui est venue d'une contrainte extérieure. Alors que, je me répète, dans le dispositif marxiste, et je suis d'accord avec Patrice Gagnifet, il n'y a pas que Trotsky, c'est l'ensemble des intellectuels révolutionnaires de la période soviétique, la dimension de lutte de classe est intrinsèque à la révolution elle-même, puisque la révolution n'est que la conséquence de la, visible d'une lutte des classes qui lui est antérieure. Ce n'est pas du tout la position de Robespierre. Il me semble que ça fait une grosse différence. J'ajouterais une remarque, peut-être aurons-nous l'occasion d'y revenir, je ne suis pas tout à fait d'accord pour admettre que les révolutionnaires français n'avaient pas de philosophie de l'histoire. Ils en avaient une, mais qui était totalement inappropriée aux événements auxquels ils étaient confrontés.
Et donc, ils ont une philosophie du progrès, de l'histoire comme progrès.
En politique,
ça sera un autre débat. Oui, je voulais juste, à propos de la guerre toujours, puisque c'est le point que vous avez abordé. Par exemple, vous omettez le fait que la Constitution de 93 a été ajournée jusqu'à la paix. Alors ensuite, il revient aux différentes factions au pouvoir de décider le moment où la paix sera rétablie. Quand Robespierre, le 8 Thermidor, fait allusion effectivement à cet avènement de la Constitution et déclare que le moment n'est pas encore venu, on est toujours dans cette même logique, parce qu'en réalité, les armées françaises ont gagné les batailles. Elles sont à Hollande, presque. Donc ça veut dire que la guerre a été gagnée. Mais simplement, il transporte les enjeux politiques ou les enjeux géopolitiques ou militaires dans une sphère morale où la durée de la révolution, donc de la guerre, sera perpétuelle, en fonction des intérêts. Alors bien sûr, dans la tête, il a dans l'idée, et ils l'ont tous, hein, même les plus radicaux, et il y en a de plus radicaux que lui dans la Révolution française, cette idée que la conclusion de la Révolution sera la Constitution. Parce qu'en 89, quand les États généraux se sont proclamés Assemblée nationale, c'était pour donner une constitution à la France. Tout parti qui dirait non, le but de la Révolution n'est pas de donner une constitution à la France, se délégitimerait aux yeux de l'opinion. Donc ils gardent tous cet objectif. Mais le fait d'ajourner la constitution jusqu'à la paix veut dire qu'on peut très bien l'ajourner jusqu'au calendrier grec. Et c'est le problème de la terreur, c'est que la révolution se sépare de tout objectif identifiable pour devenir la révolution pour elle-même. Et c'est de cette impasse-là que Robespierre n'arrive pas à sortir. Et c'est là qu'il va perdre la tête, au sens littéral du terme, le 9 Thermidor.
Jean-Claude Minière.
Autant j'admets les termes du problème, c'est absolument, ce sont absolument les termes du problème tel que je les pose. Je rappelle très, très fortement que la Constitution a été mise en quelque sorte en suspens dans un coffre en cèdre, jusqu'au retour de la paix. Il n'y a aucun doute dans mon esprit sur le fait que les termes sont posés sont ceux-là. Il faut, premièrement, une Constitution. Le but de la Révolution,
c'est une
Constitution. Chose qui disparaîtra dans l'héritage, ce que j'appelle la croyance révolutionnaire. Le deuxième point, c'est pour que la Constitution, telle qu'elle a été conçue, fonctionne, il faut un régime de paix, donc elle ne pourra... Voilà. Alors, je suis d'accord que ça ouvre la possibilité d'une indétermination,
voilà.
Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est sur l'interprétation de la position de Robespierre, qui... À mes yeux, mais je reconnais que c'est un point d'histoire sur lequel il peut y avoir plus qu'un
Absolument.
Débat, différent d'interprétation. Il me semble que Robespierre est dans la position de considérer que on s'approche du moment de la paix.
Il l'espère. Vous savez, le problème avec Robespierre, c'est qu'il est très difficile d'interpréter ses intentions. Parce que ceux qui ont eu raison de lui se sont empressés, bien sûr, de trier dans ses papiers tout ce qui pouvait leur nuire. On le sait, donc n'ont subsisté que des fragments, des choses pas toujours très intéressantes. On ne connaît pas ses intentions. C'est pas comme François Hollande, il parlait pas aux journalistes tous les deux jours. Donc on n'a pas ces verbatims, etc. Donc c'est très difficile et à mon avis, c'est l'obstacle à toute tentative d'écrire une biographie de Robespierre. C'est qu'on achoppe sur ce dernier moment, cette dernière phase qui va terminer le 9 Thermidor, qui est que ses intentions sont impénétrables. Parce qu'on ne peut les juger, à mon avis, que par les faits dont on dispose. Or, il y a deux faits. D'une part, le 8 juin 94, la fête de l'être suprême, qui semble être une annonce de sortie de la Révolution. Et le petit Naudier qui assista à la fête dit dans ses souvenirs que... tout le monde dans sa famille disait « Enfin, la révolution est terminée, Robespierre l'a fini ». Deux jours plus tard, le 10 juin, loi du 22 Prairial qui relance la machine à terreur. Et donc, on est pris entre ces deux démarches contradictoires qu'on ne peut réconcilier qu'en spéculant sur les intentions de Robespierre. Mais en même temps, on peut dire qu'il était probablement partagé entre les deux. C'est-à-dire la volonté de terminer la Révolution, ils l'ont tous eu. Parce qu'ils savent que s'ils ne la terminent pas, c'est leur tête qui va tomber. De terminer la Révolution d'un côté, et de l'autre, l'impossibilité de la terminer. Parce que quand on met le doigt dans l'engrenage de la terreur, on ne peut pas en sortir. Et d'ailleurs, on en sortira qu'en tuant les terroristes. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et les thermidoriens, malgré leur piètre vertu ou moralité, néanmoins auront ce mérite, c'est que, sans l'avoir voulu d'ailleurs, ils sortent de la terreur parce qu'ils tuent ceux qui ont fini par incarner la terreur, par s'identifier à elle. Et en l'occurrence, c'est Robespierre. Donc, au fond, ses intentions, peu importe, il était pris dans une mécanique dont probablement il ne pouvait pas sortir, en tout cas pas sortir vivant.
Une mécanique, dites-vous, mais arrêtons-nous un instant à la terreur. Parce que ce qu'on a retenu des révolutions du XXe siècle, c'est qu'elles ont trahi leurs promesses et elles ont établi des régimes totalitaires. Or, ne peut-on pas dire, Jean-Claude Milner, que la tentation totalitaire est déjà présente dans la Révolution, notamment au travers de l'épisode de la Terreur, dans la mesure où le totalitarisme, c'est, et je cite Myriam Rowe-Dalmon, la politique investie par la radicalité et par l'illimitation. La radicalité qui creuse l'écart entre le bon et le mauvais principe, entre l'ami et l'ennemi, et l'illimitation qui donne à l'homme non seulement le pouvoir de tout conquérir, mais le pouvoir de se produire lui-même. L'idée de créer un homme nouveau, c'est une idée essentielle à la Révolution française, ainsi que l'idée, d'ailleurs, qui va de pair, de la table rase. Donc, justement, le totalitarisme du XXe siècle n'éclaire-t-il pas certains aspects de la Révolution française auxquels, malgré tout, Robespierre lui-même est lié, Jean-Claude Milner?
Ce n'est pas mon sentiment, parce que la terreur telle que, et là je ne vais pas parler d'intention que je prête, mais telle qu'elle a été mise en place après les massacres de septembre, est en vérité une figure de limitation. Puisque vous avez l'institution d'un tribunal, vous avez l'institution d'une mise à mort nominale et individuelle. Nous sommes obligés de rappeler, que le mouvement de recul que nous éprouvons, nous contemporains, devant et la guillotine et l'application de la peine de mort est quelque chose qui n'a pas un sens, qui devrait être soumis au régime de l'évitement de l'anachronisme. L'application de la peine de mort est générale en Europe à ce moment-là. L'application de la peine de mort par des moyens lents et douloureux est générale en Europe à ce moment-là. La question qui se pose n'est pas de savoir pourquoi la Révolution française fait usage de la peine de mort, puisque c'est quelque chose qui est, si j'ose dire, partie prenante de l'exercice du pouvoir politique à ce moment-là, même si Robespierre, en tant qu'individu, à parler contre la peine de mort. La question, c'est de savoir si la peine de mort est prononcée par un tribunal, si elle est nominale et non pas anonyme, et si elle s'accompagne de souffrances volontairement infligées. La terreur, de ce point de vue-là, doit être prise en contraste avec les massacres de septembre. Elle doit être prise en contraste avec ce qui apparaît, mais à mes yeux n'est pas une conséquence de la terreur, à savoir les noyades de Nantes ou les procédures de Fouché. Pour moi, la terreur, c'est l'usage, c'est le passage par le tribunal révolutionnaire et c'est la guillotine. si on ne limite pas la terreur de cette manière-là, alors effectivement, toutes les extensions sont permises. Mais parce qu'on s'est donné l'extension dès le départ.
Patrice Guénifet. Oui.
Bon, mais là, c'est un problème. On pourra en discuter pendant des heures. Alors, pour être bref, au fond, vous limitez la terreur. Ce que vous appelez la terreur, c'est ce qu'on pourrait appeler historiquement la terreur girondine. Celle du printemps 93, après donc les massacres de septembre, où effectivement, il y a une volonté d'empêcher le renouvellement de ces massacres par une procédure judiciaire plus ou moins expéditive, mais néanmoins une procédure judiciaire qui évitera à la foule de descendre dans la rue. Et c'est le célèbre mot de Danton « Soyons terribles pour éviter au peuple de l'être ». C'est le motif de la création du tribunal révolutionnaire. Mais il me semble que ce dispositif juridique de limitation de la violence, comme vous le dites d'ailleurs très justement, n'a rien à voir avec la terreur proprement dite qui commence en septembre 93 et qui, elle, est fondée à pour base juridique la loi des suspects. Parce que là, on entre dans tout à fait autre chose, c'est-à-dire où on ne punit plus seulement des actes, mais des intentions. Et la procédure va se radicaliser jusqu'à la loi du 22 Prairial que Robespierre a fait adopter, qui supprime les lois de la défense, qui ne laisse plus d'alternative contre la mort et l'acquittement, qui stipule que la déposition de 3 témoins suffit pour établir la culpabilité, où les accusés se font insulter par le président, enfin, etc., etc. Là, on n'est plus dans la logique de Danton d'avril 93. C'est-à-dire que la terreur est quelque chose qui change de forme et qui se radicalise avec les événements. Et notamment avec les événements politiques, c'est-à-dire les luttes entre les factions, qui pour moi sont le moteur qui alimente la terreur et qui la rend interminable. Alors, sur la question du totalitarisme, au fond, vous parlez du corps parlant. Vous êtes linguiste, vous êtes attentif aux mots et aux discours. Au fond, le discours dépasse l'action dès le début de la Révolution. Le discours est beaucoup plus radical que l'action. Parce que dès 89, vous avez des discours sur la régénération. Vous avez des discours aussi qui ravalent ou qui ramènent la politique au rang d'une lutte à mort, d'une guerre à mort contre les ennemis du peuple et contre les ennemis de la patrie. Parce que l'ami du peuple de Marat n'est pas de 93, il commence en septembre 89. Avec une rhétorique exterminatrice qui est là d'emblée. Donc il y a bien quand même quelque chose qui fait que ceux qui soutiennent, sinon que le passage de 89 à 93 était inéluctable, au moins que le ver était dans le fruit dès le départ, n'ont pas tout à fait tort, parce qu'ils peuvent se référer à tout un ensemble de discours, pas encore tellement de pratiques, parce que je suis d'accord avec vous, les massacres, c'est autre chose que de la terreur. C'est la foule, c'est une violence spontanée. Mais la terreur, elle est dans les mots, elle est dans les têtes, avant d'être dans les pratiques. Dans cette mesure, je pense que effectivement, il y a une sorte de lien de continuité. Et j'aime pas le terme de totalitarisme, parce que ça renvoie forcément à des événements du XXe siècle. Mais il y a quelque chose de cet ordre, dès 89, conjointement avec l'aspiration constitutionnelle, avec la philosophie des droits, avec les innombrables projets de réforme que la Révolution va mener à terme ou engager, tout ça coexiste. Mais il y a déjà quelque chose, une sorte de noyau dur qui annonce la suite. Et d'ailleurs, les observateurs les plus lucides, je pense à mon cher Mallet Dupan, ont tout de suite compris qu'il se passait quelque chose qui allait mal finir. Dès 89, que le sang était au bout. Donc il y a bien quelque chose. Et c'est ça, au fond, vous ramenez la terreur à sa période la plus compréhensible, qui est celle du printemps 93, c'est-à-dire essayer de trouver une solution à l'abomination qu'ont été les massacres de septembre, et qui mobilise à la fois Girondins et Montagnards à travers Danton. C'est ce qu'on appelle le premier comité de salut public.
Rappelez exactement ce qui s'est passé pendant les massacres de septembre.
Les massacres de septembre, Jean-Claude Milner en parle aussi beaucoup dans le livre. Donc plusieurs milliers, je ne sais pas vous donner le nombre de 10 000, ça me paraît beaucoup. Hein. Je crois que c'était 3 à 4 000.
Oui, j'ai pris le chiffre maximum pour ne pas être taxé.
Mais néanmoins, c'est beaucoup. Donc manifeste de Brunswick menaçant Paris de destruction, rumeur d'invasion imminente, de chute de Paris, donc pas des foules, mais disons des groupes se portent dans les prisons où se trouvent beaucoup de prêtres notamment, emprisonnés parce qu'ils ont refusé le serment civique et commencent à les massacrer. Dans l'enthousiasme, ils iront massacrer les orphelins et les filles publiques qui sont à Bicêtre. Bon, c'est un événement très trouble, parce qu'on ne sait pas s'il est spontané ou s'il a été commandité. Il se trouve qu'une fois que les massacres ont commencé, la municipalité de Paris leur a fait livrer du vin pour entretenir leur ardeur et les a fait payer. Salariés pour compenser les journées de travail qu'ils avaient perdues dans cette patriotique besogne. Alors voilà, c'est un événement très trouble, mais qui à l'époque a été traumatique. Parce que il y avait déjà eu les massacres du 14 juillet, mais c'était une émeute populaire, c'était différent. Là, pour la première fois, la révolution qui a été faite au nom de la liberté et des droits de l'homme bascule dans une violence extrême, qui dépasse même les violences qu'on pouvait rencontrer sous l'Ancien Régime. D'où cette tentative de Danton, une fois qu'il est de manière éphémère au pouvoir au printemps 93, de trouver les mécanismes judiciaires qui permettront de donner satisfaction au peuple sans laisser faire ce genre de crime, que d'ailleurs il a probablement provoqué en 92, à un moment où il n'était pas encore au pouvoir.
Et en même temps, vous l'avez rappelé, il y a cette loi du 22 prairial qui élargit les prérogatives du tribunal révolutionnaire.
10 juin 94.
Je voudrais revenir sur ce tournant auquel Patrice Ganifet attribue, me semble-t-il, une cause plutôt interne au rapport de pouvoir au sein de la convention, entre partis, appelons cela des partis, à mes yeux, je ne mettrai pas là le point du pas qu'il n'y ait pas des luttes de pouvoir au sein du parti. Mais moi, je suis frappé par une analogie. C'est la rapidité avec laquelle le gouvernement des États-Unis, après le 11 septembre, a renoncé par le Patriot Act, à toute une série de garanties qui étaient des garanties qu'on aurait pu croire faire partie intégrante de la définition de ce que c'est qu'un citoyen américain. Autrement dit, il peut arriver, et à mon avis c'est cela qui s'est passé, beaucoup plus que des luttes internes de partis, c'est la conviction excessive ou pas, je n'ai pas les moyens de trancher, la conviction que l'ennemi était en quelque sorte partout. L'ennemi était sur le sol français par le biais des guerres de Vendée, il était au sein même de l'appareil révolutionnaire par le biais de la corruption prêtée au gouvernement anglais, enfin prêtée à mon avis à raison, je pense que le gouvernement anglais a effectivement... Il y a donc eu une situation où la conviction d'un ennemi qui était partout et où la notion de suspect à elle seule devient une cause suffisante pour engager une procédure, mais ça c'est ce qui se passe exactement dans le Patriot Act.
Oui, enfin, sauf que le Patriot Act ne supprime pas l'instruction, ne fonde pas l'acte d'accusation sur la dénonciation, n'enlève pas à l'accusé le secours d'un avocat, ne transforme pas l'audience en formalité en supprimant l'audition de témoins. Donc entre le Patriot Act et la loi du 22 prairial, il y a quand même des différences criantes.
Je ne dis pas que les lois soient exactement les mêmes, mais le mouvement auquel ils répondent, ces deux types de mesures répondent, est un mouvement qui est, à mon avis, exactement analogue. Et je me permets de penser que la situation... Alors, évidemment, on peut considérer... un reproche que Patrice Ganifet fait par moi, mais à d'autres historiens beaucoup plus importants que moi, il se place du point de vue des révolutionnaires. Les historiens qui se placent du point de vue des révolutionnaires ont tort parce qu'ils leur donnent d'emblée raison. Le problème, c'est que si vous ne vous placez pas du point de vue de ceux qui ont pris des décisions, vous ne pouvez pas comprendre leurs décisions. Et si vous ne comprenez pas leurs décisions, vous les jugez sans tenir compte des motifs qui peuvent les avoir conduits à prendre ces décisions. Donc, je ne suis pas sûr que si je construisais un mythe, un monde alternatif où j'aurais été moi-même au pouvoir, j'aurais pris ce type de décision-là. Mais les causes qui amènent à prendre ces décisions sont des causes tout à fait situables dans le temps et qui ne sont pas des causes vouées à être éternelles. Sur ce point, je ne partage pas votre analyse qui consiste à considérer que à partir du moment où il n'y a pas de terme marqué en termes de durée au retour de la paix, ça conduit à la possibilité que ça dure éternellement. Ça, je ne le crois pas du tout. Je ne crois pas du tout que ce soit nécessairement le cas. Je pense que la conviction que le gouvernement révolutionnaire est un gouvernement provisoire, que les mesures révolutionnaires sont des mesures provisoires, et que la convention est appelée à durer un temps limité, puisqu'elle ne s'appelle pas assemblée législative, c'est une convention, c'est un terme qui a son importance, tout cela est présent et fondamental.
Non, mais ça fait partie, bien sûr, des préoccupations des révolutionnaires. Et bien évidemment, moi, je les respecte. Ça devait être très difficile de se trouver dans ces circonstances, au milieu d'événements que personne ne comprenait. On voit bien aujourd'hui où on a tant de mal à juger des situations complexes, là où il y a des vrais événements. Bon, c'est très compliqué, donc on imagine très bien. Et eux, bien sûr, ayant rassemblé une convention pour donner une constitution, une convention, par définition, s'arrête le jour où la constitution est votée. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne sont pas, amenés à prendre des décisions pour différents motifs. Et essayer de comprendre, ça ne veut pas dire reproduire. Alors quand vous dites les historiens qui se mettent dans la peau des révolutionnaires, c'est vrai, c'est un défaut, parce que l'historien a précisément pour fonction de se mettre à distance, de comprendre sans reproduire le discours des acteurs historiques. Alors, il y a aussi d'autres motivations chez eux et pas seulement ça. Alors, un petit mot sur les comparaisons que vous faites et qui me semblent tout à fait fausses. Il y a quand même un critère qui définit la terreur. La terreur, c'est une menace qu'on fait peser sur les gens d'une manière universelle et indéfinie. C'est-à-dire, la terreur, c'est faire peur à tout le monde pour dissuader d'éventuels coupables. Or, dans les mesures de salut public ou de défense que peut prendre un gouvernement légitime, et j'insiste sur le terme légitime, eh bien c'est différent, parce que la réponse, même lorsqu'elle sort du cadre des lois, vise des délits précis, des crimes identifiés, et vise des suspects dont on peut penser qu'ils ont un lien avec les faits incriminés. Là, pas du tout, la loi du 22 Prévert, elle menace tout le monde. Et vous savez, il y a un débat, je suis pas sûr que vous sachiez, que vous connaissiez cet épisode. D'ailleurs, le type est réprimandé par Robespierre. C'est l'un de ses adjoints préférés, qui est l'équivalent du préfet de Paris. Qu'est-ce qu'il fait une fois la loi du 22 Prairial et la loi sur le culte de l'être suprême passée? Bien, il vient dire aux Jacobins que le moment est venu d'en finir avec tous les athées. Robespierre a proclamé l'existence de Dieu. Donc tous les athées deviennent des contre-révolutionnaires. Donc c'est une logique comme ça qui fait peser une menace universelle. Et c'est pourquoi il tombe le 8 Thermidor. Parce qu'il reste volontairement dans le vague, parce que le vague, c'est le ressort même de son pouvoir. Et il fait peur à tellement de gens que même ceux qui peuvent penser qu'il est moins pire que Barras et Fréron, eh bien vont préférer s'allier avec Barras et Fréron pour le faire tomber. Parce que précisément, il est devenu... Ils ont tous peur. Et il fait planer une menace indéfinie, permanente, et universel. Et la terreur, c'est ça. N'importe quel attentat terroriste, c'est ça. C'est de terroriser tout le monde. C'est pas de faire peur au Premier ministre ou au Président de la République.
En même temps, dans votre livre,
Oui, pardon. Il me semble que là, vous vous placez du point de vue de ceux qui ont fait tomber Robespierre. Vous reprenez leur propos. Mais je ne vous le reproche pas. Mais vous ne pouvez pas faire quelque chose que vous reprochez à d'autres
Je ne reproche pas. Je constate que Robespierre régnait avec le soutien des modérés de la Convention. Pourquoi ? Parce qu'il protégeait les députés qui avaient protesté contre l'élimination des Girondins. Ils étaient en prison. Il protégeait les prêtres réfractaires, notamment ceux qui étaient enfermés au Mont-Saint-Michel. Il avait opposé un veto au fait qu'on les envoie à la guillotine. Il protégeait différents groupes comme ça. Et au sein de la Convention, son pouvoir reposait sur Cambacérès et sur les modérés. Et on sait très bien que la nuit qui a précédé la chute de Robespierre, le 9 Thermidor, Fouché est allé voir Cambacérès et a passé un accord avec lui. ils se haïssaient tous les deux, parce que pour Cambacérès, Fouché, c'est le plus horrible de tous. Mais néanmoins, il a plus peur à ce moment-là de Robespierre, parce qu'il ne connaît pas les intentions.
Je pense que vous avez raison dans la description, mais je me répète, vous faites exactement ce dont vous refusez le droit à d'autres, c'est-à-dire vous
placez le droit de rien à personne.
Du point de vue des membres de la Convention, mais je pense que vous avez raison, et je le dis moi-même, si Robespierre est tombé, c'est parce que les membres de la Convention n'avaient pas peur de Cambon, puisque c'est Cambon et le Comité des Finances qui étaient dénoncés. À mes yeux, Robespierre avait des raisons de dénoncer Cambon, mais laissons ça de côté, des raisons qui tenaient à des raisons de politique et non pas des raisons de guerre révolutionnaire, de guerre militaire, mais peu importe, et je suis d'accord avec le mécanisme que vous décrivez.
Mais alors, dans votre livre « Lire la Révolution », Jean-Claude Milner, vous parlez en effet de la terreur, mais pas seulement. Je lis la dernière ligne, « Rien n'efface la terreur, mais la terreur n'efface pas la déclaration des droits ». Et précisément, vous faites crédit à la Révolution française de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont vous essayez d'analyser la nouveauté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi accordez-vous une importance aussi cruciale à ce moment, à cette proclamation, Jean-Claude Milner?
Je crois le dire quelque part, le légendaire français présente volontiers la France comme le pays des droits de l'homme. Et à mes yeux, je défendrais plutôt la thèse qu'elle est le pays des droits du citoyen. C'est-à-dire que, comparé aux révolutions, à la révolution états-unienne, où ce sont les droits de l'homme qui sont mis en avant, et où on en déduit en quelque sorte à la fois des human rights, des droits humains, et des civil rights, à savoir des droits civiques, la formulation française met en place deux supports différents de droits, qui sont l'un l'homme et l'autre le citoyen. Et si on prend au sérieux, et c'est quelque chose qui est maintenu. C'est-à-dire que la première déclaration de 1789 va conserver la formulation droit de l'homme et du citoyen dans les déclarations, la déclaration ultérieure, notamment celle de 1793, qui est à bien des égards différente, mais pas sur ce point. L'émergence de la figure du citoyen comme support de droit et la figure de l'homme comme support de droit pose la question de la relation et de la différence entre droit de l'homme d'un côté et droit du citoyen de l'autre. Il me semble, c'est mon interprétation, que ça n'est pas tout à fait une table rase. C'est-à-dire que quand les révolutionnaires réfléchissent aux droits du citoyen, ils ont derrière eux une réflexion qui dure depuis plus d'un siècle sur ce qui reste au sujet dans la monarchie absolue. Est-ce que ce qui lui reste comme droit est suffisant? Et dans cette réflexion-là, les droits de l'homme n'ont pas forcément toujours joué un rôle de référence. Donc il y a une réflexion autonome sur les droits du sujet politique qui va peu à peu se cristalliser, va devenir une affirmation des droits du citoyen. Et la constitution d'une figure comme celle du citoyen est matérialisée par le fait que c'est le terme qui va être employé, on s'appelle citoyen, citoyenne, ça n'est pas du tout un petit détail. Ces droits du citoyen sont, à mes yeux, j'insiste beaucoup là-dessus, d'une nature différente des droits de l'homme, mais l'hypothèse de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est qu'ils ne peuvent pas entrer en contradiction. Autrement dit, les droits du citoyen ne peuvent pas contredire les droits de l'homme. Ce ne veut pas dire qu'ils soient déduits des droits de l'homme. Je prends volontiers la comparaison du maître étalon, c'est-à-dire que les maîtres dont on se sert dans la vie courante sont rapportés au maître étalon. Ça ne veut pas dire qu'il y ait une relation de déduction logique de l'un à l'autre. Alors, À mes yeux, c'est un déplacement très important dont il n'est pas certain que la pensée politique de langue française ait tiré toujours les conséquences, mais c'est malgré tout un déplacement très important qui conduit, par exemple, à la possibilité qu'aujourd'hui, sous nos yeux, on puisse faire appel, concernant le problème des migrants, on puisse faire appel à des droits qui ne sont inscrits nulle part. À propos d'individus qui ne sont citoyens de nulle part, puisque, y compris dans leur propre pays, leur statut de citoyen leur est refusé. L'idée qu'il y ait des droits qui puissent n'être inscrits nulle part et pourtant être valides, et qui soient des droits qui commencent à être valides dès l'instant que l'être est né, les hommes naissent et demeurent, etc., donc dès le moment de la naissance, avant même que la première parole soit prononcée, c'est à mon avis une idée très forte, mais qui ne prend toute sa force que si on la met en relation de contraste avec des droits qui sont des droits du citoyen, qui sont aussi importants, d'une nature différente, et qui eux ne valent que s'ils sont inscrits explicitement quelque part. Des droits du citoyen, en quelque sorte, non écrits ou non exprimés, ça n'a pas de sens.
Oui. Patrice Guénifet.
Parfois, je trouve vos analyses un peu paradoxales. Je pense que c'est un secret plaisir chez vous de proposer des analyses paradoxales. Personne ne s'est jamais réclamé de la Déclaration des droits américaine, sauf les Américains. C'était une déclaration des droits à usage purement local et qu'il l'est resté. Jamais aucune révolution dans le monde, jamais aucun mouvement de libération ne s'en est réclamé. En revanche, cette déclaration liée aux droits du citoyen française a eu une postérité quand même incroyable. Et encore récemment, dans les contre-révolutions des printemps arabes, puisque la révolution était au pouvoir, en l'occurrence dans ces pays, néanmoins, on a eu des références à la Déclaration des droits de l'homme et à 89. Donc, la thèse que vous soutenez est un paradoxe, c'est-à-dire que le vrai événement universel, et c'est pas franco-français de dire ça, c'est tout simplement la réalité, c'est la Déclaration des droits française, parce que c'est elle qui a pesé sur l'histoire, sur la démocratie. Alors, droit de l'homme, droit du citoyen. La Déclaration a été conçue autour de la figure de la loi, parce que ce qui fait le lien entre les droits innés de l'homme et les droits du citoyen, c'est la loi. Et effectivement, dans la tradition française, mais au fond, la Déclaration a échappé à ses concepteurs très vite, c'est l'idée qu'il n'y a de droit que garanti par la loi, c'est-à-dire dont les conditions d'exercice sont fixées et limitées par la loi. Ce qui était le moyen de réconcilier, dans le débat de l'époque, les deux discours des droits et des devoirs. Et très maladroitement, la Convention thermidorienne a essayé de juxtaposer une déclaration des devoirs à une déclaration des droits. Donc, très tôt, on l'a envisagé comme ça. Mais la Déclaration des droits a évidemment échappé à ses concepteurs dès le XIXe siècle. Et cette philosophie des droits est devenue la philosophie même de la démocratie. Et si bien qu'une déclaration qui avait été rédigée pour terminer la Révolution, en l'associant à l'idée de loi, eh bien, est devenue le principe révolutionnaire même de la démocratie au travail sur elle-même et d'une dynamique d'extension permanente des droits.
Mais est-ce que précisément la nouveauté n'est pas celle-ci ? On est, à partir de la Révolution française, citoyen en tant qu'homme. Athènes, on était citoyen en tant que membre d'une caste, d'une certaine là, en tant qu'homme, ce qui veut dire que les pouvoirs n'émanent pas simplement du peuple, mais aussi de l'humanité. Ils s'exercent au nom de l'humanité, ils s'accomplissent sous la surveillance de l'humanité, et comme l'a écrit Robert Le Gros, une loi qui serait contraire au principe d'autonomie de l'homme, par exemple qui abolirait la liberté de la presse par l'instauration d'une censure, au principe d'égalité des conditions, qui interdirait la pratique d'une profession à certains groupes, au principe d'indépendance individuelle, qui conférerait une autorité au pouvoir qui échappe à tout contrôle, eh bien, elle serait considérée comme antidémocratique, alors même qu'elle pourrait être votée par la majorité. Est-ce que c'est pas ça la nouveauté ? C'est-à-dire, tout d'un coup, on est citoyen en tant qu'homme, Jean-Claude Minet.
Oui, oui, c'est ce que j'exprime sous la forme de l'impossibilité de contradiction. Autrement dit, je ne considère pas que les droits du citoyen aient pour vocation d'exprimer les droits de l'homme, parce qu'ils sont d'une nature différente. Je considère qu'ils sont à rapporter aux droits de l'homme, et c'est d'ailleurs expliqué dans le très très tôt. C'est une fonction de vérification constante, une sorte, c'est ce que j'appelle un pouvoir tribunicien qui est accordé à chaque individu. Chaque citoyen a le droit de vérifier si une loi, une décision de magistrat est conforme aux droits de l'homme. Donc il y a pour moi, je reviens toujours à cela, une différence radicale entre les deux, mais c'est cette différence qui fait que la comparaison des droits du citoyen avec les droits de l'homme prend un sens, que c'est pas simplement une sorte de ritournelle, de retour sur soi. Donc voilà. Alors je ne sais pas si ça répond à votre question.
Si, ça répond tout à fait à ma question. Votre relecture de la Révolution, pour finir, conduit précisément à une analyse de cette nouveauté radicale qu'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen prononcée par la Révolution française.
Pour moi, c'est cela, et c'est positivement ce qui, à la fin des fins, m'amène à dire que c'est l'événement qui mérite le nom de Révolution. C'est à la fin des fins, c'est ça que je n'ai pas dit au début, parce que ça aurait été engagé la discussion, mais c'est pour moi, c'est cela. Et c'est la seule Révolution qui ait fait cela, en quelque sorte, de son propre chef.
Non, j'allais dire, c'est la seule révolution qui instaure, au fond, la révolution permanente. Parce qu'à partir de la Déclaration des droits, aucune loi, aucun code de loi ne peut être tenu pour définitif. Donc une issue à l'américaine est totalement impossible en termes constitutionnels, parce que cette Déclaration des droits est, au fond, la réfutation par avance de tous les systèmes, de toutes les codifications qui pourront être adoptées.
Oui, ce que disait Claude Defeur, elle est en excès sur toute formulation advenue.
Exactement.
Très bien. Merci beaucoup.